Le tatouage est une pratique à la mode, pour autant, il peut être aussi un art et lié à une réflexion personnelle ou à une philosophie. C'est le propos de cette nouvelle exposition photographique et acoustique présentée par la SPUL, Société Photographique des Universités de Lille, son président Bernard Dupont.
C'est une association qui regroupe presque par définition des photographes qui ont une particularité. Il y a un mélange d'enseignants de l'université, de personnel de l'université, mais aussi d'étudiants, tant à l'université de Lille 1 que l'université de Lille 3. Et c'est quelque chose d'extrêmement stimulant car tous les âges sont représentés, ce qui n'est pas fréquent dans une association de photographes.
Donc c'est une association qui tire vers le haut, on va dire, l'ensemble de ses membres par justement cette mise en phase des compétences et aussi de nombreuses expositions finalement depuis 2 ans de création de ce groupe en fait. Ça a bien évolué.
J'ose à peine le dire. L'année dernière, pendant l'année universitaire précédente, disons environ 12 mois et un peu plus de 12 expositions.
La peau que j'habite est donc le titre de cette exposition. Katia Romanenko, chargée par la SPUL de mettre en œuvre ce projet, nous la présente.
Elle parle du tatouage comme de l'art, à travers duquel on peut voir l'âme de la personne, on peut voir son histoire. C'est pas seulement de montrer la culture artistique dessinée sur la peau, mais c'est aussi de montrer la personnalité qui est derrière l'image, qui est derrière le dessin. Et c'est aussi les histoires personnelles qui sont derrière chaque image, et c'est très pertinent parce que des fois on entend des choses incroyables, des histoires vraiment qui sont invraisemblables mais qui ont quand même marqué la personne, sa vie et aussi sa manière d'être, sa manière de se comporter, de vivre.
Alors justement, quand on est extérieur à ce monde du tatouage, on imagine que les gens se posent un tatouage pour faire beau comme ça parce que c'est la mode. Vous démentez?
Mais justement, c'est ce que tout le monde croit être vrai, que le tatouage c'est mode, c'est façon d'être branché, d'être un peu particulier, pas comme les autres. Mais le tatouage, son histoire, ça remonte dans le temps. Il y a des tribus dans les pays d'Afrique qui justement par le tatouage peuvent différer un tribu de l'autre. L'histoire du tatouage, en fait, ça touche plusieurs pays, ça touche plusieurs cultures, on va dire, et c'est que aujourd'hui, je pense, dans le temps des dernières 30 années, que le tatouage est devenu populaire et commercialisé, on va dire. Et donc notre exposition, elle essaie justement de montrer que le tatouage, c'est pas seulement un acte de, comment dire, de rendre honneur à la mode, mais c'est aussi le moyen de se montrer particulier par rapport aux autres, et c'est un moyen de voir quelque chose de plus profond que justement une jolie image faite par une personne qui un tatoueur.
Donc 40 photographies, combien de modèles?
On a eu 13 modèles et donc on a encore des modèles qui attendent leur tour parce qu'on pense que peut-être l'exposition pourra évoluer pour avoir plus de photos encore, donc elle pourra être élargie. Et les tatouages étaient choisis en fonction de leur couleur, leur expansion, surtout leur histoire. Et il y a aussi 10 photos qui montrent une tradition de tatouer les personnes avant le mariage au Maroc. Et donc du coup, il y a 2 volets de l'exposition, une exposition plus artistique et puis donc tatouage artistique, on va dire, et tatouage traditionnel.
Il est photographe et a contribué à l'exposition « La peau que j'habite » de la SPUL. Cliff Chan nous explique comment se sont déroulées les prises de vue.
Déjà, je pense qu'il faut un lien entre le photographe et le modèle. C'est essentiel. Pour ma part, je parle de manière personnelle. J'ai photographié 3 modèles, dont 2 que je connais personnellement. Et c'est là où j'ai pu faire le meilleur travail, entre guillemets. Parce que je connais ces personnes-là, je connais leur pratique du tatouage et je connais aussi leur symbolique. Je sais que ça leur tient très à cœur et c'est ce que j'ai voulu montrer dans les clichés. Et je pense que c'est tout ce qu'on a voulu montrer dans les clichés, faire honneur à leur tatouage, à leur symbolique, à leur esthétique. Comment, par quel procédé, Ça peut être par des jeux de lumière, des poses, mais aussi par la présence des modèles. J'ai beaucoup d'amis tatoués et justement je trouvais que avec ma pratique de la photographie, ça collait énormément. C'est quelque chose de très esthétique et qui peut être marqué par la photo.
Est-ce qu'on a des surprises en découvrant justement les peaux tatouées quand on fait des photos?
C'était quelque chose de très très intime. Certains allaient se voir, certains tatouages allaient se voir parce qu'ils l'avaient choisi. Mais même si d'un regard extérieur on pouvait le voir le tatouage, ça restait quelque chose de très personnel et on pouvait pas en comprendre la signification tant qu'on ne connaissait pas en fait la personne.
Donc quand on passe d'un tatouage qui est réalisé sur un corps à l'exposition de ce tatouage via une exposition de photographie, ça correspond aussi peut-être de la part du modèle, bien sûr aussi du photographe, à une intention de montrer, de démontrer, d'expliquer aussi peut-être sa vie au travers de ce tatouage.
Le tatouage montre toujours, en tout cas des témoignages qu'on a récoltés, montre toujours une expression de la vie ou de l'histoire, d'un événement marquant de la personne tatouée. En tout cas, elle a toujours une signification, toujours profonde, parce que c'est quand même un acte de marquer sa peau à vie. Ce n'est pas rien. Donc oui, je pense que c'est une manière de dégager son histoire et un peu de se raconter à tout le monde sans pour autant s'exposer en fait via la photographie. C'est la possibilité qu'on nous a donnée.
D'où m'est venue l'idée du tatouage? À la base, ça fait référence à une histoire que j'ai vécue donc avec une demoiselle à l'époque, forcément qui s'est mal passée vu que j'en parle au passé. Et ensuite, de cette histoire, à laquelle je trouvais quand même des beaux aspects, j'ai fini par l'adapter sous forme de conte. Je l'ai retranscrit dans un contexte médiéval fantastique. Et par la suite, en écrivant ce livre, en écrivant ce conte, j'ai eu des images qui me sont venues en tête. Et comme moi, ça faisait des années que j'avais envie de me tatouer, je me suis dit, cette histoire que j'ai vécue, puis que j'ai réécrit sous forme de conte, C'est ce qui me définit le plus et c'est ce que j'ai envie de me mettre sur le corps. Parce que c'était plus qu'une simple personne, c'était une histoire, c'était quelque chose. D'où m'est venue l'idée du tatouage? À la base, ça fait référence à une histoire que j'ai vécue avec une demoiselle à l'époque, forcément qui s'est mal passée vu que j'en parle au passé. Et ensuite, de cette histoire, à laquelle je trouvais quand même des beaux aspects, j'ai fini par l'adapter sous forme de conte. Je l'ai retranscrit dans un contexte médiéval fantastique. Et par la suite, en écrivant ce livre, en écrivant ce conte, j'ai eu des images qui me sont venues en tête. Et comme moi, ça faisait des années que j'avais envie de me tatouer, je me suis dit, cette histoire que j'ai vécue, puis que j'ai réécrit sous forme de conte, c'est ce qui me définit le plus et c'est ce que j'ai envie de me mettre sur le corps. Parce que c'était plus qu'une simple personne, c'était une histoire, c'était quelque chose. Donc le conte raconte l'histoire de Breton, qui est un jeune garçon, fils de paysan, qui se bat très bien à l'épée, dont le rêve est de devenir chevalier, mais qui ne le deviendra jamais, car il est fils de paysan, et par rapport à ça, il n'a pas vraiment de but dans la vie, il finit par vivre des aventures à droite, à gauche, aller au loin, jusqu'à, à une époque, finir par faire quelques passes d'armes, puis quelques joutes, puis quelques tournois, et lors de l'un d'eux, il arrive en finale et en fait, au moment de la finale, décide de dédier sa future victoire à une jeune noble qui est dans le public et qui est accompagnée. Puis il fait son combat, il le gagne, remporte le tournoi et en fait, le lendemain, au moment de récupérer le grand prix devant tout le public, il s'avère qu'il ne se présente pas parce qu'il est parti avec la fameuse dame à qui il a dédié sa victoire la veille. Donc en fait, dans l'histoire, Breton qui commençait à avoir une existence par le combat sur le chevalier, part dans le pays de la demoiselle, puis s'installe avec elle, et en fait, le temps allant, en fait, il commence à se lasser, non pas de son histoire avec de la demoiselle, mais de son mode de vie. C'est à force de ne pas avoir de but, il avait occupé sa vie en faisant des choses à droite, à gauche, des coups d'éclat, quelques coups plus fumeux, et en fait, en allant s'installer avec cette dame qui laisse séduite, qui l'a conquise, il se retrouve à mettre son épée de côté pour essayer de simplement vivre avec, et plutôt prendre une fourche, travailler. Et là aussi, là où il aurait voulu devenir chevalier, ses espoirs contredits et ses frustrations commencent à rentrer en conflit. Au point qu'il commence à mal vivre sa vie, à sombrer dans la dépression et ne même plus vouloir prendre son épée, alors que c'est elle qui le définissait. et aussi également ne même plus se battre pour sa dame, qu'il est pourtant allé chercher. Au point qu'un jour, alors qu'elle lui demande d'aller la représenter pour un tournoi, il refuse de reprendre son épée. Elle y part déçue, et quand, 3 jours plus tard, Water décide finalement d'aller faire ce tournoi, quand il se présente aux inscriptions pour la joute, il découvre que la dame a un nouveau champion qui a dédié sa victoire à la demoiselle, comme lui l'avait fait plus tôt. C'est un passage qui est assez court dans le livre, mais c'est ça qui est le moteur du reste. C'est que bien des années plus tard, Brother revient dans son pays d'origine et il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Alors oui, il fait des mauvais tours aux gardes, il fait des coups d'éclat, il continue à gagner des tournois ici et là, mais a une réputation plutôt mauvaise. C'est un gentil mauvais garçon. Mais il ne se trouve pas de but dans la vie et pour lui, il sait que ses rêves de chevalerie, c'est fini, c'est oublié, il ne pourra jamais l'être. Et un jour, on en visite un de ses amis nobles, des rares qui veut bien lui adresser la parole. En visitant son domaine, il tombe sur une vieille chapelle abandonnée dans laquelle il y a une statue de femme, de laquelle il finit par tomber amoureux. Parce qu'elle lui rappelle des traits familiers, il y a une histoire qui tourne autour de la femme de la statue, qui l'émeut. Alors que, point de vue sentiment, Brother avait plutôt mis sa vie de côté. Et en fait, à partir de ce moment-là, chaque nuit, Brother se retrouve agressé par un démon, par une créature, qui à chaque fois font appel à son passé. Donc la première nuit, il va tomber sur le reflet, qui va être quelqu'un avec la même apparence de lui, mais en armure de noble, avec le blason de chevalier et l'armure d'apparat. Le lendemain, il va être attaqué par l'hydre. Un dragon a plusieurs têtes, chaque fois qu'on en coupe, elles vont repousser. Et l'hydre là représente la rumeur, ce qu'on dit de lui, ce qu'on dira de lui, ce qu'on a dit par rapport à ce qu'il a pu faire. Et en fait, à chaque fois, différents monstres vont l'attaquer, et on ne sait jamais trop si le monstre l'attaque vraiment, c'est lui simplement qui, en ayant de nouveaux sentiments, fait un retour sur lui-même, sur son histoire, et donne des corps monstrueux à ses doutes, à ses troubles. Donc forcément, au début, il combat ses émotions, mais ça fait aussi partie de lui. Et typiquement, donc ça, c'est le bras droit, on a le dragon, qui représente la colère et la jalousie, qui est une force juste destructrice qu'il ne peut même pas affronter directement, pas en face à face, un homme ne peut pas affronter un dragon. Par la suite, revient pour l'aider face à 2 autres monstres, l'ogre, qui représente l'insatiabilité, qui représente la passion, qui représente le fait de jamais en avoir assez, et l'ombre, qui elle représente le doute. Et c'est la seule fois où dans le livre, un de ces démons, donc le dragon, revient à son côté, parce que c'est la colère, c'est la jalousie, mais c'est aussi c'est la passion, c'est la fougue. Et donc voilà, c'est dans l'histoire du livre, c'est à force d'affronter ces démons intérieurs, mais aussi de les accepter, où Brother finit, au final, à ne même pas pouvoir terminer avec la jeune femme de la statue, car c'est une statue. Et là, 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 pardon.
Et donc, pour faire le lien avec ton tatouage...
Donc, en fait, voilà.
Donc, on a le dragon.
On a le dragon de l'histoire. Et
Tu parlais de la statue.
Voilà, donc, à la fin, oui, Brother ne finit pas avec la demoiselle. Ils n'ont pas de nombreux enfants. Ils ne vivent pas heureux. Mais lui, par contre, vit mieux parce qu'il a su accepter son passé, tout comme le fait que tomber amoureux de la jeune fille de la statue, c'était une façon de se battre pour sa précédente, pour qui il ne s'est pas battu à l'époque. Et donc, en fait, c'est ce que je représente dans mon tatouage, donc le dragon qu'on voit déjà fulminant, qu'on voit menaçant, mais qu'on voit aussi protecteur autour de la jeune femme. Et donc, la dame pour laquelle il avait dédié sa victoire en tournoi, et qui porte aussi les ronces qui entouraient la statue de la deuxième jeune femme sur laquelle il tombe dans l'histoire. Le style, en fait, c'est... J'avais demandé au tatoueur de s'inspirer du trait d'Alphonse Mucha, ou Mucha, comme ils disent, qui était connu début du XXe siècle pour, à Paris, avoir posé l'art moderne au début, alors c'était sur des paquets de cigarettes, des calendriers de la poste et autres, jusqu'à faire plus tard, quand il était réputé, les vitraux de la cathédrale de Prague. Donc avec un trait avec des bordures très épais. Et surtout, ce que j'adorais dans ses dessins, c'est que les femmes, parce qu'il dessinait beaucoup de femmes, surtout Sarah Bernhardt, dont il avait fait beaucoup d'affiches de films et de pièces de théâtre, il la représentait toujours belle, élégante, mais pas vulgaire. Et en fait, dans l'histoire de mon livre, à un moment, Le but du héros est représenté par une petite émeraude en forme de petit pois, et qui représente son espoir. Et Alphonse Mucha faisait beaucoup de séries de 4 dessins, notamment la série des gemmes, avec l'émeraude, donc. Et en fait, j'ai demandé au tatouage de reprendre non seulement le trait, mais aussi la posture. Donc là, le fait qu'une jeune femme soit les mains croisées sur le dragon, c'est repris, c'est le même type de trait, c'est la même posture du personnage féminin.
Et pour l'autre tatouage que tu as donc sur ton autre bras, est-ce que ça a un lien avec ce livre que tu as écrit ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent puisque même le style est a priori très différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce deuxième tatouage ?
Alors pourtant, même si les traits sont différents, c'est lié de la même façon. C'est aussi d'inspiration d'un Mucha. Là par contre, c'est la série des arts et j'avais repris la poésie. Donc c'est exactement la même posture de jeune femme, légèrement de profil, accoudée avec la tête reposant sur les mains. Et en fait, j'avais repris la poésie parce que sur le bras droit, le dessus au niveau de l'épaule, c'est un soleil, et j'avais envie de faire deux tatouages qui se répondent. Donc forcément, soleil sur un tatouage, une lune sur l'autre, et sur la poésie de Mucha, on a la demoiselle qui est sous un quart de lune. Et donc ensuite, pour le trait, on reste encore sur du trait... assez épais. Et là, on a essayé de faire en sorte que ça se réponde un maximum. Dans le creux des coudes, j'ai les robes des jeunes femmes. Donc du côté du bras droit, c'est le rouge, un côté très chaleureux avec beaucoup de courbes, beaucoup d'arrondis. Alors que de l'autre côté, c'est du bleu plutôt nuit, les traits de la robe sont plutôt cassés, ça fait presque très anguleux, très électrique. Et en fait, au niveau de l'histoire du deuxième tatouage, autant sur le premier, on voit une jeune femme plus affirmée qui est à la fois protégée et maîtrisant un dragon, qui est la colère et la fougue. De l'autre côté, c'est un peu la métaphore du héros dans le premier livre. Donc en fait, là, c'est un pan qui est dessiné, mais il va pas être couleur pan, il va être couleur plus flamme, comme un phénix. C'est juste que je trouve le pan plus joli à représenter qu'un phénix classique, tel qu'on peut l'avoir. Notamment le travail au niveau des yeux sur les plumes. Ici, la jeune femme pleure, elle a l'air très mélancolique. Et alors qu'à côté, le pan, mais on va plus parler d'un phénix, représente la renaissance. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le héros. C'est, comme je disais, dans certains contes, par exemple Siegfried et le dragon, le chevalier tue le dragon, se mène dans son sang et devient plus fort. Là, à mon grand regret, il n'y avait pas de dragon, donc c'était ses larmes. Donc effectivement, comme dans l'histoire, comme dans la mienne, c'est en la faisant pleurer à l'époque... en manquant à l'appel, qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, du coup le personnage, comme moi, s'est amélioré, a maîtrisé ses démons, et finalement a eu une sorte de renaissance, d'où le phénix, et la dame en pleurs. Et donc, pourquoi les bras, surtout pourquoi un deuxième bras. C'est vrai qu'à la base, j'étais plutôt parti pour le premier dessin, le représenter sur un dos, et finalement, en discutant avec le tatoueur, qui aime beaucoup faire de grandes pièces qui s'étalent, me disait que faire un dessin de cette taille-là sur le dos sera gâcher la surface, parce qu'effectivement, peut-être que dans 10 ans, j'aurais envie de me faire un dos complet. Et là, pour l'instant, j'avais pas d'idée suffisante pour le remplir entièrement. Donc, il m'est proposé de faire une manchette sur le bras droit, et en fait, c'est en voyant au fur et à mesure que j'avais un bras rempli et un bras gauche vide, j'ai eu l'envie de faire le deuxième bras, avec des dessins qui soient liés, mais différents, qui puissent se répondre. Et j'avais un ami qui me disait que lui est tatoué sur les avant-bras, mais pas les mêmes types de formes et pas au même niveau. Il me disait que le fait de faire vraiment trop symétrique risquait de faire trop aspect armure. Et c'est justement cette phrase-là qui m'a convaincu de faire dans les mêmes proportions pour aussi faire cette référence au héros qui ne devient jamais chevalier. Cette histoire, j'apporte comme une armure sur les bras. Alors, déjà, au niveau de l'état d'avancement de ce tatouage-là, il me reste encore une séance complète à faire, où on va colorer le phénix, enfin le pan, pour le mettre en couleur phénix. Au niveau de les cheveux de la demoiselle, on va partir sur un gris légèrement bleuté. Et enfin, coloriser la lune. Après ça, quelques retouches mises à part, il sera terminé. Après, est-ce que je ferai un autre tatouage? Je dirais sûrement, mais pas tout de suite, parce que, je comptais me faire tatouer à 18 ans, je ne l'ai pas fait, j'ai attendu quasiment 10 ans pour le faire. Comme j'ai attendu, j'ai mis quelque chose qui me semblait très important, qui m'a marqué presque à vie. Et là, j'ai rien d'aussi fort, rien d'aussi important à mettre sur la peau, et tant que j'en aurai pas, j'en ferai pas.
J'ai 23 ans. Alors j'ai des tatouages dans le dos, donc pratiquement on va dire sur trois quarts du dos et la moitié du bras. Donc j'ai fait principalement à ces endroits-là parce que déjà le dos, pour ce que je voulais faire, c'est l'endroit où on a le plus de place. Et le bras, parce que j'aime bien cet effet de manche en fait, qu'on peut avoir avec le style de tatouage que j'ai fait. Alors, j'ai commencé, donc c'était dans le bas du dos, j'avais 15 ans. Et donc, c'était. Mes parents avaient pour habitude, entre guillemets, de, si on le souhaitait, à l'obtention du brevet du collège, de se faire tatouer. Donc, moi, bien sûr, ça a été bien, bien réfléchi parce que, bon, ma mère m'a expliqué que c'était quand même ma vie, qu'il fallait bien, bien y réfléchir. Et je me suis lancée parce que c'est quelque chose que j'aimais bien depuis un petit moment. Alors mon père était tatoué, donc des tatouages de l'armée. Et ma mère par contre s'est fait tatouer elle dernièrement. Elle avait 50 ans, elle adore ça en fait. Alors elle a dessiné une lettre J avec quelques motifs sur la cheville. Donc à savoir que la lettre J, ça représente moi, mes frères et sœurs, parce qu'on a tous un prénom commençant par la lettre J. Et elle s'est fait également la lettre J dans sa nuque, en fait, au niveau du cou. Même pour mon dos et le bras, c'est moi qui faisais les croquis, parce que j'aime bien aussi dessiner. Et elle préfère que ça venait de moi, en fait, que ce soit moi qui... On y a pensé ensemble. Et elle était contente de pouvoir faire tatouer un dessin que moi, je lui avais préparé. Alors, le deuxième, donc ça a toujours été dans le dos, donc dans le haut du dos. Et celui-là, j'avouerais que c'était un peu sur un coup de tête. Ça, j'avoue. Mais je voulais rester dans le style du premier tatouage que j'avais fait. Donc, j'ai refait... Donc, le premier, c'était un tribal, le deuxième également. À la base, ça vient des tribus, oui. Parce qu'il y a tribal et il y a maori. Là, en fait, il n'y a pas vraiment de forme spéciale, juste que dans chaque tribal, il y a un petit cœur, en fait. Ben voilà, au moins, enfin, ça fait un tribal, parce que souvent, les tribals, c'est plus pour les hommes. Enfin, on voit ça plus souvent sur les hommes. Mm-hmm. Mais je trouvais que, justement, le petit cœur, ça apportait une petite touche de féminité. Parce que ça reste quand même des dessins assez gros, assez imposants. Et le cœur, je trouvais que ça apportait un petit peu de douceur là-dedans. Oui, c'est vrai que j'ai une part un peu plus masculine que féminine. J'ai été élevée plus avec mes frères, vu que ma sœur est plus âgée, donc elle est partie plus vite. Et j'ai toujours grandi dans tout ce qui est voiture, moto, tatouage, justement. Voilà. Alors, il y a un cœur, mais sur chaque motif. Alors, j'ai encore autre chose. Donc, j'ai dans le milieu du dos une sorte d'elfe. Autour de cette elfe, il y a un effet de vent qui remonte jusque l'épaule, avec des papillons. En fait, j'ai fait ça parce que déjà, à la base, j'aime beaucoup ce côté fantastique. J'ai toujours aimé tout ce qui était elfique, le monde un peu imaginaire. En même temps, j'ai l'impression de me retrouver dans l'elfe que j'ai fait dans le dos. Parce qu'elle est assez mystérieuse, discrète et un petit peu à part en fait. Voilà, j'ai l'impression le fait d'attirer l'œil, j'aime bien te regarder entre guillemets. Et je sais que chez certaines personnes ça peut plaire, notamment chez les hommes. Parfois ils aiment bien voir les femmes tatouées. Pour moi, oui, c'est un art. Oui.
C'est du tibétain. Le mantra d'Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. L'autre bras, c'est inspiré d'une dorure de Gustave Doré sur la Divine Comédie. Ça reste spirituel. Bon, la Divine Comédie, c'est la montée de Béatrice au paradis. Et bon, je me suis tatoué cette illustration parce que bon, j'arrivais à retrouver quelque chose de moi dans ce dessin. Mon père est mort il y a quelques années, donc j'ai refoulé beaucoup. Pas évident de faire face à le décès d'un proche. On ne nous apprend pas à gérer ce type d'émotion, où ça amène d'autres questionnements par rapport au sens de la vie, enfin, le truc. Bon, en plus, moi j'ai été touché quand j'avais 20 ans aussi par un accident où j'ai failli y passer, dû à un manque de sagesse, un manque d'expérience. C'est normal, hein, à 20 ans, on connaît rien de la vie. Enfin, même encore maintenant, hein, oui. On apprend chaque jour. Hein. Donc, beaucoup, beaucoup de refoulements, beaucoup de choses, et un jour, ça sort. Hein. Ouais, enfin, j'ai plutôt des tendances bouddhistes. Ouais. Parce que même moi, je peux voir la foi bouddhiste, même si c'est plutôt doit être à tendance, entre guillemets, chrétienne, des anges. Mais bon, après, on peut y voir ce qu'on veut sans qu'on soit limité par un aspect visuel, culturel. Béatrice, elle guide Dante, Dante dans son cheminement. Il est guidé par Virgile, qui symbolise la sagesse, et Béatrice, la foi. Et c'est marrant parce qu'il fait face à ses propres peurs. Et au milieu de ma vie, je traversais une forêt sombre et obscure. C'est ce qui nous arrive à chacun quand on a des difficultés dans la vie. Hein. Au milieu de notre vie, on traverse une forêt sombre et obscure. Enfin, où on fait face aussi à soi, face à des états d'esprit. C'est un moyen d'exprimer une souffrance. Pour moi, je le vois aussi comme ça. Même si je l'ai fait il y a 3 ans, enfin, je suis déjà dans la voie bouddhiste depuis plus longtemps, depuis 14 ans. Bon, après ici, celui-là, c'est suite toujours au décès d'un proche. Et j'ai tellement récité le mantra, le mantra d'Avalokiteshvara, donc le Bouddha de la compassion. Sa définition, c'est une requête à Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. On fait la requête afin que tous les êtres soient libérés de la souffrance et atteignent le bonheur de l'illumination. Tous les êtres. Humain, non-humain, bouddhiste, non-bouddhiste. Dans le bouddhisme, il y a une pratique qu'on appelle le poa, ce qui est le transfert de conscience. On croit en la réincarnation, et quand on a un proche, ou quand quelqu'un décède, on peut faire une pratique du poa. C'est une cérémonie où il y a des récitations de mantras, et on prie pour que la personne prenne une bonne renaissance. Enfin, le corps meurt, mais l'esprit part dans la prochaine vie. Dans le bouddhisme, on renaît vie après vie, dans ce qu'on appelle le samsara. Indéfiniment. Et Bouddha montre la voie pour se libérer de ce cycle de renaissance, atteindre l'éveil, l'illumination. C'est se libérer de notre ignorance. Ouais.
Voilà, donc là, c'est des photos qu'on fait généralement à la sortie de la mairie, donc une fois que l'anneau est passé. Donc on les fait poser, simplement on leur demande de poser leurs mains sur le bouquet de fleurs. Donc quant à ce tatouage-là justement, donc c'est simplement une imitation. C'est parce qu'il y a pas mal de... Il y a des gens qui veulent pas se faire tatouer, faire des tatouages avec du henné ou autre. Donc elles préfèrent plutôt mettre ça juste, ce tatouage en plastique. Donc c'est un style de motif qu'on colle sur la main simplement et qu'on retire juste après la cérémonie. Là, c'est un mariage aussi donc que j'ai cadré ici dans le nord, donc c'est à Wani exactement. Donc c'est une Kabyle qui s'est mariée avec un Marocain, donc c'est des jeunes de 22 ans tous les deux. Et donc là, c'était la soirée du henné, c'est-à-dire la veille du mariage. C'est parce que chez certains maghrébins, donc la fête, elle commence le vendredi, le samedi, c'est la mairie, donc et la soirée jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais là, donc c'était l'heure du henné, donc ils étaient venus justement, c'était la soirée henné, ça s'appelle la soirée henné. Donc le marié, il va venir la veille pour faire du henné justement, mettre du henné avec sa promise. Mais là, c'est tout à fait autre chose, sauf que là, c'était simplement un tatouage. Donc, il y a eu un tatouage du henné, encore une fois, qui représente une région de Kabylie, métissée avec un style aussi marocain. Donc là, c'est la veille du mariage, donc c'était la soirée du henné. Donc là, le marié, justement, il va venir, c'est parce qu'en fait, il va faire passer la bague de fiançailles. On dit, c'est les fiançailles. Donc le lendemain, c'est le mariage, et il y a aussi la séance henné. Donc voilà exactement comment ça se passe. Donc c'est comme ça se présente sur ces photos-là. Donc c'est soit c'est la grand-mère, ou la mère, justement, du marié, donc qui est habilitée, et c'est les seuls d'ailleurs qui vont mettre le henné donc pour les futurs mariés. Donc une fois que le henné il est posé, donc il est fait à la main, donc cette fois il n'y a pas de seringue ni de bouteille en plastique sur lesquelles on presse pour faire sortir le produit. Là simplement donc il est mélangé avec les mains. avec les doigts. C'est un mélange, en fait, c'est une poudre, le henné, hein, c'est une poudre qui est mélangée avec de l'alcool et un mélange d'alcool et d'eau. Voilà, donc comme ça, justement, l'alcool pour la dureté du produit. Voilà, donc là il y a une pièce d'argent. Une fois que le henné est posé, donc on va sceller ses deux mains avec une pièce de 5 francs justement en argent. D'ailleurs, même si aujourd'hui on va aller chez n'importe quelle famille, on fait le tour de la France, donc ils ont tous des pièces de 5 francs qui ont été gardées soigneusement pour l'occasion d'ailleurs, parce que c'est l'argent donc qui scelle et le henné donc qui font simplement, c'est une fusion. Pour que le couple dure et vive heureux. En fait, pourquoi c'est la grand-mère ou c'est la mère qui met le henné pour les mariés? Et une fois qu'ils ont fini de mettre le henné, la pièce elle est posée. Donc après ils mettent une espèce de cache justement pour ne pas se tacher leur chemise, leur costume, leur robe, les costumes. Donc ils prennent le reste du henné. Et c'est la grand-mère qui va repartir avec. Elle ne laisse pas traîner, c'est parce qu'elle peur. Donc, c'est avec ça. Ils disent que c'est avec ça. Donc, ils vont jeter. Ils peuvent jeter, justement, du mauvais sort avec du henné utilisé pour les mariés. Depuis, et là, ça a une signification quand même assez forte. Hein, donc là, c'est un mariage que j'ai cadré à Amiens. Donc c'est dans le nord. Et donc en fait, donc là, on montre le pied, les deux pieds, mais juste à côté, justement, on montre la fille qui se fait tatouer, la même fille d'ailleurs, donc la même mariée. Donc là, c'est un tatouage du sud du Maroc, justement. Et pourquoi le pied? C'est parce que pour eux, donc quand on rentre chez les Marocains, donc ils n'existent pas, même en France, hein, donc quand on rentre chez eux, il n'existe pas de salon. Donc on rentre automatiquement, dès qu'on arrive devant la porte, on retire ses chaussures, on rentre, c'est parce qu'il y a un tapis qui va nous accueillir. Voilà. Et donc la fille, simplement, c'est parce qu'elle sait quand elle va retirer ses chaussures, donc elle va montrer simplement la beauté de ses pieds, et avec un tatouage comme ça, significatif d'ailleurs. Donc c'est parce qu'elles reprennent aussi les motifs berbères de leur région, et c'est ce qui fait justement la beauté de ses pieds. À côté, donc c'est toujours avec la même mariée, et là on montre déjà la personne. D'ailleurs, on dirait que c'est il y a une initiation justement au tatouage éphémère, donc il y a bien le henné qui se fait d'ailleurs avec une seringue, et ça on voit une fille de 14-15 ans à peine qui est en train de continuer justement ses tatouages, mais cette fois c'est sur les mains.
L'exposition « La peau que j'habite » de la Société photographique des universités de Lille, la SPUL, est actuellement visible jusqu'au 15 avril à l'espace culture de l'université Lille 1 à Villeneuve-d'Ascq, à voir et à écouter également sur la page web www.ondedechine.fr/la-peau-que-j'habite. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.